J'aimerais que nous considérions ensemble cette résurrection de Jésus-Christ, élément de première importance pour l'Église, pour les chrétiens. Qui ne se souvient pas de cette parole célèbre de Paul, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et vaine est aussi votre foi. En effet, nous savons l'élément fondamental de tout le témoignage des apôtres depuis le jour de la Pentecôte, c'est bien la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre espérance à nous est que de même que tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. J'aimerais lire avec vous quelques versets de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er. Versets 15 à 23. Voilà pourquoi moi aussi, depuis que j'ai appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints. Quelle immense puissance il a déployée en notre faveur, à nous les croyants, son énergie, sa force toute-puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux. Bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Oui, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné au sommet de tout pour être tête à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que le Seigneur soit béni. Oui, je disais que notre espérance est que, de même que tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. Cependant, le point sur lequel j'aimerais insister ce matin, ce n'est pas avant tout le fait que nos corps mortels ressusciteront à la fin des temps. Une autre réalité aussi importante va retenir notre attention. C'est cette affirmation de Paul d'après laquelle la puissance d'une grandeur extraordinaire mise à l'œuvre pour amener Christ d'entre les morts, cette même puissance se déploie en notre faveur, à nous les croyants. Il n'est pas seulement question d'un héritage que nous avons reçu, d'un bien, d'un dépôt, d'une vie riche, mais il est question de ce que la puissance de Dieu est en train de faire maintenant pour nous et avec nous. Cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ continue d'agir et nous, les croyants, nous ne pouvons pas faire autrement que d'agir par cette puissance. Voilà ces deux aspects de ce que Paul nous dit ce matin. Et il aimerait, il souhaite, il prie pour que la lumière du Seigneur éclaire nos cœurs, pour que nous puissions appréhender cette vérité et que nous en vivions quotidiennement. Cette puissance se déploie en notre faveur. Autant dire que les causes qui étaient à l'origine de la résurrection de Jésus-Christ sont toujours actives. Autant dire que les conséquences heureuses pour les croyants sont actuelles et ne sont pas reportées à la fin des temps. Autant dire que ces choses-là, ces puissances-là, s'offrent à nous comme une réalité présente que nous sommes appelés à vivre quotidiennement. Nous sommes donc enthousiasmés. Et cette immense faveur, nous désirons ardemment connaître ses manifestations. Puisqu'il est à l'œuvre, nous désirons voir ses manifestations. Alors nous allons considérer ces manifestations de la puissance de Dieu qui agit maintenant. Nous allons les considérer d'une manière globale, c'est-à-dire à la fois sur le plan communautaire et sur le plan individuel. Cependant, nous chercherons aussi la manière dont chacun pourrait les appliquer à sa propre expérience, à sa propre existence. Et pour cela, à la fin de cette méditation, nous ferons appel au témoignage personnel de l'apôtre Paul. Car non seulement il s'était donné pour objectif connaître Christ et la puissance de sa résurrection, Philippiens 3:10, mais encore, il a adressé cette injonction à ses correspondants, tous ensemble, imitez-moi. Imitez-moi. Voilà le déroulement de cette méditation que je vous propose, les manifestations de la puissance dans l'Église et en nous personnellement. Mais comment, à notre tour, nous pouvons y répondre pour notre témoignage particulier à l'exemple de l'apôtre Paul? Parmi les diverses manifestations de cette puissance, trois ont retenu particulièrement mon attention. Il me semble que l'énergie extraordinaire de Dieu se révèle d'abord comme une force qui rassemble. Ensuite, comme une force qui maintient et qui soutient. Et enfin, comme une force qui fait croître vers la plénitude. Voilà ce qui me semble être les manifestations de cette grande puissance, un rassemblement, un soutien et une croissance ensemble vers la plénitude. La puissance souveraine de Dieu rassemble. L'évangile de Jean rapporte deux annonces prophétiques concernant ce rassemblement. À ses collègues du Sanhédrin, le grand prêtre Caïphe avait fait valoir que la mort d'un seul, pour le peuple, était préférable à la ruine de toute une nation. Jean, appliquant ses propos au Fils de Dieu, déclare qu'il est venu rassembler en son corps tous les enfants de Dieu dispersés. C'est l'interprétation de Jean aux paroles de Caïphe, le grand prêtre. À cette déclaration de Caïphe, il faut aussi mentionner l'affirmation de Jésus qui disait « Lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jésus avait toujours envisagé la nécessité de sa mort pour atteindre ce but rassemblé. Et il a cité l'exemple du grain de blé qui, tombé en terre, doit mourir afin de porter beaucoup de fruits. Pour sûr, frères et sœurs, le rassemblement opéré par la puissance du ressuscité n'est pas un rassemblement banal d'humains. Quelques hommes de bonne disposition qui se rassemblent. Les dispersés qui vont être rassemblés, les dispersés dont il est question, étaient en train de croupir dans les ténèbres. Ils étaient accablés sous le fardeau de leurs fautes et l'oppression du père du mensonge. par eux-mêmes, d'eux-mêmes, ils n'avaient pas la possibilité de se rassembler. Mais dans sa miséricorde, Dieu a envoyé son Fils pour les affranchir. Il a envoyé son Fils pour les tirer hors du gouffre et les conduire sur le chemin de la liberté et de la lumière. Donc, nous mesurons la situation de ces gens dispersés. Ils étaient aussi captifs. Ils n'avaient pas la possibilité de retrouver leur chemin. Il a fallu que Jésus aille vers eux. Mais pourtant, si nous comprenons l'histoire de l'Église et notre propre histoire, pourtant, affranchis par Jésus-Christ, leurs luttes ne sont pas pour autant terminées. Ces dispersés rassemblés risquaient encore d'affronter des situations diverses qui menacent de les enfermer à nouveau. Parce qu'ils étaient encore dans le monde. Le Seigneur ne les a pas retirés du monde. Il les a retirés de leur situation, mais pas du monde. Et c'est pourquoi ces rachetés, ces rassemblés, pouvaient subir encore des pressions venant du monde extérieur. Ils pouvaient aussi éprouver des préoccupations intérieures. Et c'est pour cela que Jésus, sachant cette situation, être dans le monde sans être du monde, Jésus avait prévenu en disant « Prenez courage, j'ai vaincu le monde » avant même d'aller sur la croix et d'être ressuscité. Aussi, après cet affranchissement initial, nous découvrons une autre étape passionnante dans le rassemblement que le Christ ressuscité opère. Toujours sous l'action de cette force souveraine, ceux qui sont devenus proches, qui ont été rassemblés, vont s'adhérer au Christ qui est la tête. Et simultanément, ils vont s'agréger les uns aux autres. Donc il y a deux mouvements qui suivent l'attraction de Jésus qui les a tirés hors de leur péché et de leur mort. Il y a adhésion au Christ à la tête et agrégation les uns aux autres. Ils forment maintenant un même corps. Ils ne sont pas un simple groupe au sein duquel de braves individus se retrouveraient côte à côte, mais sans aucun lien entre eux. Ils constituent désormais un organisme, quelque chose de vivant, bien coordonné, car la force de cohésion venant du Seigneur ressuscité agit en vue d'une harmonie qui favorise la circulation de la vie commune entre ceux qui étaient autrefois éloignés et même opposés. C'est inouï, cet événement. Le livre des Actes, retraçant les débuts de l'Église, rapporte précisément que les croyants ainsi rassemblés par le Seigneur n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Extraordinaire, ça. Or, ce phénomène inimaginable est une réalité permanente. Elle est manifeste encore aujourd'hui. Mais une remarque très importante de Luc, l'auteur du livre des Actes, nous donne la raison de la permanence de cette réalité formidable. Luc signale, en quelques mots, l'origine de cet événement prodigieux, ce rassemblement. Il dit, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. » Cet état de choses ne dépendait donc pas du bon vouloir de quelques personnes qui avaient envie d'être ensemble, comme je le disais. Au contraire, Luc a même constaté chez le peuple qui observait cet événement extraordinaire, chez le peuple qui observait cela, il y avait une sorte de crainte et de respect à la fois. Ils étaient ébahis, mais ils avaient en même temps peur. Et Luc dit, ils n'osaient pas s'agréger à ce groupe vivant extraordinaire. Ils avaient une peur bleue, pourrais-je dire. Mais Luc continue. En revanche, il ajoute, par la foi, des multitudes de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes se ralliaient au Seigneur. Donc si d'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas s'agréger, mais par la foi, ils pouvaient franchir le pas. Autant dire que la construction d'une communauté de croyants découle d'une action directe du Seigneur ressuscité et non de la volonté d'hommes habiles à créer des associations. Mais la puissance de résurrection du Seigneur agissait en profondeur en suscitant la foi qui fait adhérer au Seigneur et qui permet de s'agréger à la communauté. À partir d'êtres humains différents, comme nous le sommes, l'énergie divine suscite l'émergence d'un groupement tout à fait original. Un groupement uni comme un seul homme. Et l'expression paulinienne de Paul, c'est un seul homme nouveau. C'est tout à fait original et c'est tout à fait extraordinaire. Le Seigneur ressuscité rassemble. Le deuxième point qui nous donne la manifestation de la puissance extraordinaire de Dieu à notre égard, à notre disposition, le deuxième point, c'est que cette puissance souveraine soutient et affermit. Cette grande et belle réalité que nous venons d'évoquer, à savoir l'homme nouveau, nous invite à discerner un autre ouvrage aussi grand et aussi beau. C'est le temple nouveau. Temple nouveau, cela nous renvoie à la déclaration faite par Jésus, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » En rapportant ces propos, l'évangéliste ajoute un commentaire. Il dit, « Jésus parlait du temple de son corps. » Ce corps qui n'a pas connu la corruption, mais ressuscité par l'Esprit du Père, comme dit Paul, ce corps ressuscité se révèle aussi habitation de l'Esprit, demeure véritable de Dieu, temple saint. Or, qu'il s'agisse de l'homme nouveau ou du temple nouveau, l'action souveraine de Dieu par le Christ ressuscité va présenter devant nous une nouvelle manifestation, outre celle de rassembler. Et cette nouvelle manifestation, c'est quelque chose d'essentiel. C'est tenir. Tenir. C'est-à-dire que ce corps qui a été relevé, ce temple qui a été reconstruit, tout cela doit pouvoir tenir, s'enraciner durablement, rester debout. Donc, il ne s'agit pas d'avoir seulement une belle réalité, un homme nouveau, mais il faut que ça tienne. Alors, le temple reconstruit ne doit plus s'effondrer. La maison de Dieu est érigée pour toujours. Et l'apôtre Paul nous dit que la maison de Dieu est colonne et appui de la vérité. Quelque chose qui reste, qui tient aux yeux de tous. Ainsi donc, la souveraine puissance de Dieu fait que tout subsiste. C'est-à-dire qu'un fondement solide et fiable a été indispensable et c'est la souveraine puissance de Dieu qui a pourvu à cela. La lettre aux Colossiens nous dit que c'est en Christ, parole éternelle, premier-né d'entre les morts, c'est en Christ que tout se tient. De même, la lettre aux Hébreux déclare que le Fils, par lequel Dieu nous parle encore dans ces derniers temps, par ce Fils, il soutient toute chose par sa parole vivante, puissante. Le Christ soutient toute chose par sa puissance, par la puissance de sa parole ou par sa parole puissante. En ce qui concerne la maison de Dieu, le seul fondement qui a été posé et qui assure la stabilité de l'édifice en toutes circonstances, le seul fondement, c'est Jésus-Christ lui-même. Comprenons par là, frères et sœurs, que c'est la fidélité même de Dieu qui est engagée en parlant d'appui et de soutien. Lui qui est à la fois architecte et constructeur, il est en mesure de garantir la solidité des fondations. Il a promis, que la puissance de la mort n'aurait aucune force contre son Église. Sœurs et frères, le Seigneur sait tout de même que nos communautés sont fragiles. Il sait que chacun de nous qui formons ces communautés, nous sommes également des êtres fragiles. Mais il s'est engagé à nous fournir une assistance indéfectible afin de tenir et de perdurer. Le même appui accordé à une communauté est aussi accordé à chacun de ses membres. D'après la lettre aux Romains, chapitre 14, verset 4, le plus petit serviteur du Christ, quel qu'il soit, peut avoir l'assurance que le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir debout. C'est Romains 14, 4, qui nous parle des forts et des faibles dans l'Église. Et l'apôtre dit, le plus petit serviteur, là, le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. Oui, certainement, le Seigneur ressuscité et vivant veille sur nous. Mais de notre côté, nous sommes aussi appelés à veiller et à prier les uns pour les autres. Et c'est ainsi que nous obtiendrons la force de tenir debout. Troisième manifestation de cette puissance déployée en notre faveur. La puissance souveraine de Dieu fait croître vers la plénitude. Nous venons de parler de stabilité et d'enracinement. Toutefois, nous ne voulons pas les confondre avec l'immobilisme ou le conservatisme. Ce n'est pas cela la stabilité et l'enracinement. Au contraire, nous dit la parole, le fait d'être fermement établi dans le Seigneur ressuscité, le fait d'être solidement enraciné en lui, communique à tout le corps un dynamisme certain. Donc il n'est pas figé, mais au contraire, il évolue. Le Seigneur fait croître jusqu'à la taille du Christ dans sa plénitude. Éphésiens 4, 13. Cette énergie nous fait passer ensemble de l'état d'enfant à l'état d'homme fait. Croissance, dans les paraboles du royaume, Jésus en parle. Et Jésus, ici ou là, compare la progression du règne de Dieu dans le monde à la croissance d'une plante. Ce qui est merveilleux, quand il en parle, c'est que dans ce processus de la croissance, c'est le fait que la semence pousse d'elle-même, dit Jésus. Jésus indique que celui qui a mis en terre cette semence ignore tout du phénomène de la germination. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin le blé plein l'épi. Tout se fait comme cela. Ou plutôt, la science humaine est secondaire là-dedans. C'est Dieu qui fait croître, nous dit l'apôtre. Ce n'est pas l'énergie humaine qui va tirer sur la plante, si j'ose dire. L'homme peut veiller à éliminer ce qui fait obstacle à la croissance. Il peut la favoriser en y apportant de l'humus, de l'engrais, mais il ne fait pas croître. Cela revient à Dieu. L'affirmation de Paul, c'est Dieu qui fait croître, concerne aussi bien le corps du Christ, organisme spirituel, que l'édifice, maison de Dieu. Dans le premier cas, le corps du Christ, l'apôtre mentionne que le corps réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour, Éphésiens 4:16. Mais c'est de la tête qui est Jésus, c'est de la tête que le corps tout entier tire la croissance que Dieu donne. Colossiens 2:10. Le corps semble donc croître tout seul, progresser vers la plénitude, tout seul. Mais en fait, nous dit Paul, c'est la tête qui tire tout à lui pour réaliser la croissance que Dieu donne. Et concernant l'édifice, puisque nous avons parlé du corps, concernant l'édifice, il nous est dit également, c'est à partir de la pierre angulaire, maintenant c'est le bas, à partir de la pierre angulaire, la pierre maîtresse, que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint. Donc nous avons là, dans cette croissance, deux mouvements, à partir de la tête, qui coordonne tout et qui tire tout, et puis en bas, la pierre angulaire, qui fait ajuster les autres pierres et s'élever vers un temple saint. Ainsi, frères et sœurs, l'opération souveraine de Dieu se poursuit actuellement jusqu'à l'achèvement, c'est-à-dire jusqu'à la configuration des croyants à l'image du Christ. Concernant cette plénitude ou cet achèvement, il y a une remarque qui ne manque pas d'importance. C'est celle-ci. À la suite de l'apôtre, nous avons parlé de l'homme qui grandit jusqu'à la taille du Christ, jusqu'à la perfection du Christ. Nous employons ainsi l'image masculine, l'homme qui grandit à l'image du Christ. Mais concernant la plénitude de l'Église, de son achèvement, Paul fait intervenir l'image féminine. Il met l'accent sur la perfection de l'épouse dans Éphésiens. Car durant la période intermédiaire entre sa résurrection et son retour en gloire, le Seigneur prépare son épouse qui est l'Église. Elle veut qu'elle soit belle et sans tache. Or, Paul souligne que cette beauté, cette perfection sont fondées sur l'amour du Christ pour son épouse. C'est parce que Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle qu'elle peut la rendre belle, sainte et sans tache, par amour. De même que nous avions lu tout à l'heure que le corps réalise sa propre croissance dans l'amour. J'arrive maintenant à la conclusion. Cette puissance de résurrection du Christ est donc à l'œuvre en nous de manière étonnante et efficace. Nous n'avons fait que relever les signes, les aspects, les manifestations qui la caractérisent, c'est-à-dire rassembler, soutenir, unir, affermir, transformer et conduire vers la plénitude. Nous n'avons évoqué que ces manifestations. Mais la nature profonde de cette force, sa nature profonde, qu'est-elle en réalité, cette force? Nous ne le savons pas. Pourtant, il y a un petit mot que j'évoquais tout à l'heure, il y a un petit mot qui nous met sur la piste et qui éclaire nos ténèbres. Ce petit mot, c'est amour. Quelle autre puissance, frères et sœurs, peut opérer aussi merveilleusement, aussi parfaitement? Quelle autre puissance peut faire tout cela? L'amour. Et si le corps se développe par lui-même, l'apôtre souligne que dans ce corps, il y a toutes les parties qui sont ajustées, qui sont coordonnées, et que chacune de ces parties contribue à cette croissance. Donc il y a une solidarité du corps dans l'amour qui permet cette croissance. Aussi, en terminant, avant d'évoquer les conseils de l'apôtre Paul, sur le plan personnel, nous pouvons nous demander comment vivre cette réalité au quotidien, cette réalité à savoir que nous avons à notre disposition cette force extraordinaire, qu'est l'amour, qui est l'amour et qui se manifeste de diverses manières. Comment pouvons-nous vivre au quotidien de cette réalité? Quel exemple Paul nous donne-t-il à ce sujet? C'est dans un passage des Philippiens que Paul se donne le projet, le but de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Ça peut être pour nous aussi un programme, et connaître Christ et cette puissance de résurrection qui est pour nous. Paul encourageait ses correspondants à l'imiter. Car Paul, ayant été stoppé, arrêté, saisi, empoigné, s'est engagé par la suite à devenir semblable à l'ancien. À présent, c'est lui, l'ancien persécuteur, qui s'évertue à rassembler aux persécutés, qui est revenu triomphant de la mort. Alors, quelles sont les pistes qu'il nous propose dans ce désir de ressembler à celui qu'il persécutait? Trois éléments que j'ai relevés dans Philippiens 3. Paul nous dit, premièrement, lâchez prise, afin de laisser l'énergie du ressuscité agir en nous. Deuxièmement, accepter de prendre part aux souffrances de Christ. Et troisièmement, courir avec persévérance sur les traces du Christ. Lâcher tout afin de gagner Christ, c'est-à-dire ne pas rester agrippé aux vains honneurs de ce monde avec leurs fausses valeurs, mais contempler l'exemple du Fils qui s'est abaissé et qui a obéi jusqu'à la mort de la croix. C'est ce que Paul a appris de celui qu'il persécutait. Et puis, communié aux souffrances de Christ, l'apôtre a découvert cette condition incontournable. Il ne saurait connaître la puissance de la résurrection sans communier aux souffrances du Seigneur. Il a compris que si Christ a été rendu vivant par la puissance de Dieu, c'est parce que le Christ a accepté d'être crucifié en raison de sa faiblesse. Donc, à son tour, Paul accepte d'être faible afin de devenir fort par la grâce suffisante de Dieu. Effectivement, dans son ministère, Paul rend ce témoignage. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. C'est là la deuxième condition, accepter de communier aux souffrances. Et puis troisième condition, pour que cette puissance se manifeste, puissance d'amour, courir avec persévérance sur les traces du Christ. Paul a appris et reconnu que vivre au quotidien la puissance de la résurrection du Christ impliquait un renoncement et un engagement sur une voie nouvelle. C'était ce chemin-là qui s'ouvrait à lui. Il devait y marcher, ou plutôt courir avec persévérance. Toutefois, en parlant de cette opération, la course, il ne s'appuyait pas sur ses propres forces. Le moteur qui fournissait l'énergie, c'est le ressuscité, celui qui l'avait saisi et qui ne l'avait pas lâché, et qui maintenant l'accompagnait, et même l'entraînait, le tirait dans cette course. Donc, quand il nous a dit qu'il faut courir sur les traces du Christ, ce n'est pas par nos propres efforts, mais celui qui nous avait attrapés dans notre perdition, c'est lui qui est avec nous et qui nous tire. Et oui, si l'avorton qu'il s'estimait être a pu travailler plus que tous les autres apôtres, c'est par la grâce de Dieu. C'est ce que Paul dit, 1 Corinthiens 15. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Moi, l'avorton, j'ai travaillé plus que les autres, mais par la grâce de Dieu. Il regardait son ministère comme un labeur, un combat mené avec la force du Seigneur qui agissait puissamment en lui. Et il osait déclarer qu'en toutes circonstances, il pouvait tout par celui qui le rendait fort, par celui qui le fortifiait. Voilà le secret de Paul qu'il nous livre et que nous pouvons méditer face à cette puissance extraordinaire qui est à notre disposition. Que le Seigneur nous y encourage et nous exauce dans notre désir, puisque c'est sa volonté première. C'est d'abord lui qui l'a voulu. À lui soit la gloire.